Ce matin, nous allons poursuivre dans ce projet. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit sur l'Église, qu'on avait déjà commencé, mais on va peut-être avancer aujourd'hui sur ce qui est l'élément le plus frappant lorsqu'on parle de l'Église à la lumière de 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 12 au verset 14, et puis dans Jean 17, 21 à 23. Nous allons donc lire ces textes-là d'abord. Et puis ensuite, nous allons prier. Alors, 1 Corinthiens 12, du verset 12 au verset 14. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, il est formé de plusieurs membres. L'unité et la diversité. L'unité dans la diversité dans l'unité. Deuxième texte. Jean chapitre 17, versets 21 à 23. J'ai pris au milieu du texte, mais j'ai pris les éléments qui sont les plus relevants pour nous ce matin. « Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Prions. Ce matin, nous voulons, notre Dieu, parcourir un petit bout de ta parole, aborder un aspect, c'est pas tout l'aspect de l'Église, mais un aspect parmi tant d'autres de l'Église. Et je voudrais ce matin que tu nous aides à cheminer ensemble. Nous voulons construire une Église pour ta gloire, une Église qui soit à la hauteur de la crainte, de la révérence, du respect que nous avons pour toi, à la hauteur de la reconnaissance que nous avons pour toi, à la hauteur de ce que tu es véritablement dans ta parole. Oui, aide-nous à cela. C'est une tâche ardue, mais nous avons le partenariat avec le Saint-Esprit et nous croyons que nous pouvons aussi y arriver comme d'autres y sont arrivés avant nous et comme d'autres y arriveront aussi après nous. Que toute la gloire te revienne, Seigneur notre Dieu. En Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Donc, quelle Église voulons-nous construire? Évidemment, ça ne sera pas une Église à ma façon, à moi. Oh, je peux avoir plein d'idées, mais c'est pas à ma façon. Et même si on prenait un docteur en théologie, ça sera pas encore à sa façon, même si il est très brillant et très intelligent. C'est pas à la façon d'un homme. Nous voulons bâtir l'Église à la façon de Dieu. Et comment savoir ce que Dieu veut pour son Église? On peut le savoir à travers la Bible, sa parole. La fois passée, nous avons parlé de Matthieu, chapitre 16, et nous avons surtout épinglé ce que je viens de dire. Tu es Pierre, verset 18, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Nous avons évoqué cette idée que le chef de l'église c'est Christ, c'est pas le pasteur, c'est pas les responsables, c'est pas les gens les plus influents, c'est le pasteur, c'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et bien sûr, j'ai dit le pasteur parce qu'il est vrai que Jésus est le grand pasteur, hein, le souverain pasteur. Vous comprenez, hein? C'est pas que je fais des lapsus, hein. Donc, au cas où. Le patron donc de l'Église, c'est Christ. Et plusieurs textes le montrent, plusieurs textes l'expriment très clairement. Et on avait vu aussi que le mot chef correspondait avec le mot tête en grec. Ce sont des mots semblables, chef et tête. Et c'est bien, parce que quelque part, l'Église est présentée comme le corps, dont Christ est la tête. l'Église est présentée comme la structure dans laquelle Christ est le chef. C'est un jeu de mots qui va ensemble. Mais en même temps, ça nous fait réfléchir sur cette idée que Jésus est la tête du corps. Je disais la fois passée aussi, quand on veut reconnaître quelqu'un, on le reconnaît non pas à son dos, non pas à son pied, non pas à sa main, on le reconnaît à son visage. On va dire, ça, c'est Christ. Je le sais parce que je vois son sourire, et donc je sais que c'est Christ. Là, c'est Paul. Je vois tout sérieux, tout beau. Hein, et voilà, ça, c'est Paul. Vous voyez, je reconnais les gens comme ils sont par leur visage. Mais c'est tout un corps, c'est pas que la tête. Imaginez quelqu'un qui se balade avec rien que la tête. Vous direz, ouh, infréquentable. Il faudrait que la tête soit sur un corps. Et le cerveau, qui est situé sur la tête, dans la tête, pardon, est là pour commander le reste du corps, coordonner. Et Christ est le chef qui commande, qui coordonne son Église, qui emmène son Église, qui conduit son Église. Être conscient de l'importance, de la réalité que Jésus-Christ est dans son Église, qu'il dirige son Église, que ce n'est pas les hommes, que c'est lui-même. Alors, parfois, ça, voir Christ dans son Église, ça peut nous aider à nous dire, attention, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je travaille sur un chantier dans lequel le patron est là. Nous avons eu des travaux chez nous à la maison, ça continue encore, mais une partie est faite, donc les poussières sont un peu, ont diminué, mais il y a encore des, encore plus pour plus tard. Mais je me souviens toujours que quand l'entrepreneur venait, le rythme de travail des ouvriers était différent. Quand il arrivait, ça courait dans tous les sens. Alors que quand il n'est pas là, ça ouvre la radio, ça sifflote pendant que ça travaille. Bon, je ne peux pas les accuser, ils ont bossé, hein. Je ne peux pas dire qu'ils n'ont rien fait, ils ont vraiment travaillé et je les félicite. Mais le rythme n'est pas le même. Et je voyais aussi que quand le patron était là, mais le patron avait un coup d'œil incroyable. Il savait regarder à la façon dont un mur a été fait, à la façon dont quelque chose a été installé, si ça allait ou pas. Et il se sentait en premier lieu responsable. S'il y avait un problème, c'est lui qui était le plus stressé que ses employés, parce que c'est lui le responsable de tout ce qui va ou tout ce qui ne va pas. Mes amis, Jésus, c'est le responsable. Quand les choses ne vont pas dans l'Église, croyez-le, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les diacres, ce n'est pas les anciens, ce n'est pas les responsables à tous les niveaux qui sont inquiets. Avant eux, Christ est d'abord touché par la situation. Mais ce matin, je voudrais peut-être juste faire ressortir deux caractéristiques, et j'espère ne pas être très bavard avec ces caractéristiques, parce qu'il vous faut quand même aller manger. Enfin, moi, je peux me passer, hein, parce qu'il paraît que j'ai déjà, vous voyez ce que je veux dire, hein, et donc un peu de régime, ça ne me fera pas de mal. Je voudrais ressortir deux caractéristiques ce matin. Deux caractéristiques qui sortent de ce texte de 1 Corinthiens 12 et que nous avons perçu à travers cette prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17. Première caractéristique, c'est l'unité. L'unité du corps. La deuxième caractéristique, c'est sa diversité. Un seul corps, plusieurs membres. L'unité. Si Christ est la tête du corps qui est l'Église, ce corps est présenté comme un tout. Un tout, ça veut dire que les différents membres qui constituent le corps sont reliés les uns les autres. Il y a des liens. Ils ne sont pas chacun dans son petit bout, la main qui fait du smurf en disant je m'arrête ici, et l'autre qui fait le pied et qui s'arrête là-bas. Non, c'est tout. Essayez de tirer par là et d'aller par là. Vous allez voir que cette main va dire, non, mais me laisse pas de ce côté-là. Je vais avec toi par là. Donc, le corps est un tout avec les membres qui sont reliés les uns les autres pour former un ensemble. n'est pas par hasard qu'on utilise l'image du corps. Vous savez, on peut passer toute une année à étudier l'Église selon les différentes images. L'Église a plusieurs images, bien sûr. Hein. Il y a l'image du corps, qu'on va exploiter un peu. Il y a l'image de l'épouse. Il y a l'image du troupeau. Il y a l'image de famille. Il y a l'image de l'armée. Il y a l'image du peuple. Et tout ça, ça peut permettre d'enrichir ce que c'est que l'Église. Mais nous allons nous contenter juste de l'image du corps ce matin. L'Église est présentée comme une, au sens où elle constitue une unité. Paul, dans cet épître aux Corinthiens, va développer, c'est vrai, il est vrai que dans ce chapitre, dans ce chapitre 12, il est vrai que Paul est en train d'aborder une question qui lui a été posée à propos de la manifestation de l'Esprit à travers les dons. Mais il va profiter pour donner les bases sur lesquelles cet exercice des dons peut se faire, les bases sur lesquelles la manifestation du Saint-Esprit peut être le plus rentable et le plus efficace pour l'Église. Et cette base, c'est ça, c'est l'unité et la diversité. Il faudrait, évidemment, combiner avec d'autres textes pour comprendre ce que c'est que l'importance de l'unité dans le corps. Mais nous allons prendre de temps en temps l'un ou l'autre texte pour ça. Donc, le fait que chaque membre dans l'Église soit relié à l'autre fait que nous sommes interdépendants. Nous dépendons les uns des autres. L'effort de l'un est productif pour l'autre. Mais la faiblesse de l'un peut être portée par la force de l'autre. Mais l'effort, la faiblesse généralisée d'une partie du corps peut entraîner une faiblesse aussi des autres, de l'autre partie. Nous sommes liés, nous sommes interdépendants. L'effort que je fais pour donner la gloire à Dieu dans l'Église est un effort qui sera un encouragement pour un autre. Le découragement dont je fais preuve peut entraîner le découragement des autres. L'amour que j'ai pour les uns peut pousser les autres aussi à aimer. La colère que j'ai pour certains peut pousser les autres aussi à être colériques. Nous sommes interdépendants. Nous avons chacun un rôle et une importance mutuelle. J'aimerais peut-être, avant de continuer, juste dire une chose. J'entends beaucoup ça dans les églises. Les gens, il y en a qui disent dans l'église, moi, je ne sais pas prier, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas annoncer l'évangile, je ne sais pas, je ne sais rien faire, moi. Je suis nul. Je ne sais rien. Et puis d'autres, il n'y a que moi. Vous avez compris? Il n'y a que moi. C'est moi qui. Vous voyez? Mais j'aimerais seulement dire ce matin que chaque partie du corps est importante. Ceux qui ne savent pas prier ou qui croient ne pas savoir prier, parce que parfois c'est juste une question d'essayer, hein? Ceux qui ne savent pas prier sont aussi importants que ceux qui savent très bien prier. Ceux qui sont un peu réservés, un peu timides dans leur façon de servir, ceux qui sont effacés, sont aussi importants. Pourquoi? Parce que tous, à leur façon, constituent le corps. Bien entendu, le Seigneur attend de nous que nous fassions des progrès, ça c'est clair. Mais nous sommes importants parce que nous faisons partie du corps. Vous avez remarqué une chose, en Actes des Apôtres, le texte que Paul a lu au chapitre 2, lorsque Pierre termine son discours et qu'il leur dit, répondez-vous, que chacun de vous soit baptisé, etc., vous recevrez le don, etc. Vous avez vu ce qui est écrit? Et le Seigneur ajouta à l'Église. Vous avez remarqué ça? Le plan de Dieu ne peut pas faire autrement que de passer par l'Église. L'Église, c'est le moyen que Dieu a instauré dans notre temps pour s'étendre dans le monde, pour faire avancer son royaume. Un chrétien qui se convertit et qui dit, moi, je ne vais pas fréquenter aucune église. je restais chez moi à la maison. Je commence à prier par connexion. Je tape Internet, top chrétien, ou je me contacte avec une église en Alsace, aux États-Unis, peu importe. Tac. Et moi, je suis mon culte. Je suis membre de cette église-là par Internet. Non. Non. Un chrétien qui se convertit doit comprendre qu'automatiquement, notre conversion est liée à ce double mécanisme où nous sommes sauvés individuellement pour être enfants de Dieu, mais nous sommes aussi sauvés, rachetés collectivement pour servir comme un peuple. Nous avons lu ce texte-là la fois passée aussi avec Tite qui le dit clairement. Nous sommes sauvés, nous devenons enfants de Dieu, mais nous sommes aussi, en tant qu'enfants de Dieu, membres de la famille de Dieu, serviteurs, peuple de Dieu. Et nous sommes là pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Là, je pense au texte de 1 Pierre 2, verset 10. L'Église, c'est le moyen de Dieu. Vous êtes, en tant qu'individu, mais surtout en tant que communauté, le moyen par lequel le royaume de Dieu va avancer. Et l'unité est ce qui sera le moyen, la vie, la manière de vivre. L'unité de l'Église, donc, se fonde sur le fait que les chrétiens nés de nouveau ont tous reçu le même esprit. Ils ont été plongés dans la famille de Dieu. C'est ce que nous avons vu dans 1 Corinthiens. Nous avons tous été baptisés dans un même corps. Nous avons tous été baptisés dans l'esprit pour former le corps du Christ. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas la deuxième expérience à partir duquel on va parler en langue. Ce n'est pas ça le baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit, c'est ce bain de régénération. Le fait que nous sommes plongés dans la nouvelle nature pour devenir enfants de Dieu. Nous sommes adoptés, nous devenons les enfants adoptifs, les enfants adoptés de Dieu. C'est ça le baptême de l'Esprit. Et nous sommes plongés. Mais voyez, ce texte dit, vous êtes plongés, et il dit encore, vous avez été abreuvés. Il y a une double expérience. Je suis plongé dans la famille de Dieu, dans la réalité de Dieu, mais j'ai Dieu en moi. Je reçois l'Esprit en moi. Il vit en moi. Il n'est plus sur moi, mais il est au-dedans de moi. L'unité de l'Église montre que c'est le même esprit qui travaille, qui nous a plongés dans la famille de Dieu, et dont nous sommes devenus des frères et sœurs, enfants d'un même Père. Nous avons tous le même esprit qui vit en nous. Et donc, forcément, cet esprit nous emmène à des connexions, à des liens, à nous entendre, à vivre ensemble, à nous reconnaître. Et à faire route ensemble, en comprenant tous ensemble l'objectif dans lequel nous nous trouvons. L'Église, ce n'est pas une simple organisation. C'est un organisme, comme le corps humain. C'est un organisme. Un organisme, par définition, c'est quelque chose qui vit tout seul, qui vit par son propre mécanisme, qui ne dépend pas d'une direction extérieure, mais de l'intérieur à une dynamique de vie. C'est comme ça que, pour le corps humain, quand une partie est touchée par la maladie, tout le reste du corps s'en ressent, et il y a une mobilisation du reste du corps pour guérir, soigner la partie qui va mal. Voyez-vous, qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Quand l'un va mal, quand le pasteur, entre guillemets, déconne, qu'est-ce qu'on fait? Hein, Simon? On lui dit, oh, le pasteur déconne, il faut le virer! Qu'est-ce qui se passe quand il y a un conflit entre deux frères? On est là, on regarde, on dit, ah oui, oui, conflit entre Simon et moi, oui, oui. Non, moi je suis pour toi, Gaston. Je suis pour toi, Simon, il a tort. Et puis l'autre dit, je suis pour Simon, parce que Gaston, il a déconné. Conséquence, c'est le même corps. Hein. Le corps est malade. Le corps est mort. L'unité de l'Église est quelque chose de vital. C'est notre façon de vivre. Nous ne devons pas considérer l'unité comme un effort que nous devons faire simplement parce que, ouais, on peut faire ça, on peut faire autre chose. Non, c'est vraiment vital, c'est vraiment fondamental. Elle est indispensable pour le fonctionnement du corps. L'unité est indispensable pour le fonctionnement de l'Église. Sans unité, on est perdu. On est perdu. C'est cette unité qui va permettre au corps de fonctionner et qui va lui permettre de pouvoir atteindre l'objectif pour lequel Dieu a fait l'Église. Pourquoi Dieu a fait l'Église? Parce que Dieu voulait se servir de l'Église comme un moyen pour atteindre les âmes perdues, pour atteindre le monde perdu. Dans Jean au chapitre 17, nous voyons que cette unité est à l'image même de Dieu, le Dieu trinitaire. Christ va dire, de même que je suis en toi et toi tu es en moi, je voudrais que cette unité aussi soit comme ça entre eux. L'unité est quelque chose qui n'existe pas, que nous ne créons pas. C'est quelque chose qui nous a déjà précédé, qui existe avant nous. Elle est déjà dans le projet de Dieu, dans le cœur de Dieu. Dieu est déjà un Dieu trinitaire. Père, Fils, Saint-Esprit. L'unité est déjà présente là. Cette unité aussi, vous avez vu le texte, peut-être qu'on peut le remettre, Jean 17. Cette unité est nécessaire parce que, grâce à cette unité, le monde peut voir, savoir que Dieu a envoyé Jésus. Vous avez remarqué ça? Il le dit à deux fois. Verset 21. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Pourquoi? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 23. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Voyez, l'unité, c'est le moyen par lequel les gens sauront que cette Église est bien l'Église de Jésus-Christ. L'unité rendra visible le travail et l'œuvre de Jésus-Christ dans l'Église. L'unité est quelque chose qui est importante. Travailler pour l'unité est quelque chose d'extraordinairement important dans l'Église. Ce texte nous montre donc que l'unité est quelque chose qui fait partie du projet de Dieu, mais quelque chose qui est déjà, qui nous précède déjà. Nous n'avons pas à construire l'unité. Elle est déjà là. Elle est déjà là parce que nous avons un seul Dieu, un seul esprit, un seul baptême, une seule foi, etc. Elle est déjà là, cette unité. Mais nous avons à la conserver. Tu peux montrer le texte de Éphésiens chapitre 4, le verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Conserver. Pas créer, pas inventer, pas mettre en place. Elle existe déjà, mais nous devons la conserver. Pourquoi? Parce qu'elle peut se perdre. L'unité peut aussi partir en vrille, comme disent les jeunes. Ça peut complètement se perdre. On peut rentrer dans une dynamique où on perd l'unité. Il faut la conserver. Il faut s'efforcer. Notre tâche, en tant que membre du corps du Christ, est de faire tous nos efforts pour conserver l'unité que le Saint-Esprit a créée entre nous. C'est donc à la fois un travail qui appelle notre volonté. Nous devons être pleins de volonté pour cela. C'est un travail qui appelle aussi notre affection, notre amour. Je dois être motivé par le fait que je veux conserver l'unité dans mon église, dans ma communauté. Je veux et je suis motivé par le fait que c'est par amour. J'ai été aimé. Dieu m'a aimé. Et Dieu aime aussi mes frères là. Le frère avec lequel je ne suis pas d'accord là, Mais Dieu l'aime comme il m'aime. Comment pourrais-je me présenter devant Dieu dans la prière et dire, Seigneur, je t'aime beaucoup, je te loue, je te bénis, mais au fait, avec Simon, Seigneur, ça ne va pas. Je ne l'aime pas, Simon. Est-ce que vous pensez qu'en âme et conscience, cette prière-là va passer? Enfin, si vous êtes comme moi, vous allez avoir un problème de conscience. Moi, je m'arrête. Quand je suis comme ça, je m'arrête. Je ne sais plus prier. Je me sens mal. Je suis malheureux. Il faut que je fasse tout pour me réconcilier. Et je peux poursuivre ma prière. C'est clair dans la Bible. Si vous ne pardonnez pas aux autres, il ne vous sera pas non plus pardonné. C'est comme ça. Conserver le lien de l'unité. Faire tout son possible pour que l'unité reste entre nous. Que le lien de l'unité reste entre nous. Le faire avec toute ma volonté. Le faire aussi avec tout mon cœur, avec tout mon amour. Parce que il s'agit d'une histoire d'amour entre Dieu et moi. Il s'agit d'une histoire d'amour entre Dieu et mon frère avec lequel je ne m'entends pas. Ou avec les gens qui sont à l'intérieur de mon église. Vous voyez, Paul, pourquoi il parle de tout ça? Il parle de tout ça parce que Paul, il veut prévenir les divisions dans l'église. Voyez-vous? Ceux qui sèment la division, par exemple, dans l'église, à travers la médisance, ce sont des mécanismes. La médisance est quelque chose qui sème beaucoup la division dans l'église. Les critiques négatives. Il a taillé sa barbe. Je m'acharne sur toi aujourd'hui, mon Simon. Mais je sais que tu me pardonneras. De toute façon, il y a Vanessa qui est là. Je crois que si tu veux m'attaquer, elle va me défendre. Hein, Vanessa, tu vas me défendre. Voilà, elle a dit oui, c'est bien. Simon, il a taillé sa barbe comme ça, et moi je suis là, je dis aux autres, oh, regardez, il a encore mal taillé sa barbe. Oh, ce garçon, mais il n'a pas de rasoir, et il ne sait pas se raser, il n'a pas honte. Mais je ne le dis pas à lui, hein. Oh non, 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 non. Salut Simon, belle barbe hein, ce matin. Conséquence, je construis des murs autour de Simon. De moins en moins, des gens vont lui parler. Il va devenir antipathique. Et le pauvre, il va s'apercevoir qu'on ne me salue jamais dans cette église-là. On s'occupe jamais de moi. Qu'est-ce qu'il va faire, vous croyez? Il va réagir lui aussi. Vous pensez que quand on est méchant avec quelqu'un, il va pas réagir? Il va réagir aussi. Il devient méchant lui aussi. Et la pagaille commence. Les médisances. Attention. Jean-Pierre Van de Voorde aimait bien ce texte qui disait que la médisance est comme un bonbon. C'est agréable à manger. La médisance, les critiques négatives, les critiques faciles, critiques sans réfléchir, comme ça, ouf, sans réfléchir. Une autre chose encore, la rancœur. Quelqu'un m'a fait quelque chose qui ne m'avait pas plu et je ne lui pardonnerai jamais. L'amertume, ça c'est le plus grave, l'amertume. Parce que quand quelqu'un est amer, il ne sait même plus pourquoi il est amer. Il est juste amer. Et quand on doit gratter, on va trouver des histoires enfouies depuis des années. Combattons en nous-mêmes l'amertume. Ne la laissons pas prendre place dans nos cœurs. Refusons-la. C'est dans Hébreu qu'on dit que l'amertume doit disparaître au milieu de nous parce que l'amertume fait pousser des rejetons. Ça veut dire que de l'amertume, on switch vers l'irritabilité, la colère, le désespoir, les idées noires, la négativité généralisée, la difficulté d'avoir des relations normales avec des gens. Battons-nous contre l'amertume. Il y a une autre chose aussi, une maladie qui nous frappe, nous les chrétiens aussi, et qui sape l'unité. Simon travaille. Ok. Tu fais quoi, Simon? Ah, mais je vais faire le toit de l'église. Ah, non. Fais pas le toit. Mais pourquoi il ne le ferait pas? Ah, mais non! Parce que c'est Simon. Il ne sait pas le faire. Bon, qui le fait? Ah, je ne sais pas moi. Débrouillez-vous, trouvez la solution. Comment on appelle ça? La mauvaise foi. On ne veut pas que quelqu'un travaille et on ne veut pas non plus que le travail avance. Nous, les chrétiens, nous sommes souvent piégés par ça. Saboter le travail de Dieu, croyant que nous voulons empêcher quelqu'un de le faire. Soyons contents du travail que nous faisons les uns les autres. Un frère fait tel travail. Gloire à Dieu, mon frère, sois béni. Quelqu'un se propose à faire une tâche et qu'objectivement, il n'y a personne qui le fait. Et que lui se propose, oui, mais sois béni, vas-y. Si nous pouvons nous encourager dans nos responsabilités mutuelles, ouais, moi je demande pardon parfois aussi parce que je ne vous encourage peut-être pas parfois. Là, je vous demande pardon, franchement. Mais j'aimerais bien. Mais sachez-le, même si je ne vous dis rien, je vous encourage. Je porte votre travail à cœur. Pourquoi? Parce que c'est le travail de Dieu. Je suis content que le travail de Dieu soit fait. Et soyons comme ça. Aimons travailler et aimons encourager le travail des autres. Vous savez, c'est quelque chose qui nous manque. Nous sommes parfois comme des chiens de faïence. Alors ce micro, on doit l'enlever si moi et moi on se regarde. Mais on doit l'enlever, hein. J'attends que toi tu l'enlèves, hein. Et moi je vais l'enlever, hein. Alors quand Simon se lève pour y aller, il précipite pour le faire. Non, non. Nous avons la possibilité de travailler ensemble. Admirons-nous dans le travail. Le frère fait un boulot, je suis très content pour ce boulot-là, je l'encourage. Je prie pour lui. Et si je sais aller le voir, si je sais aller le voir dans son boulot, je le fais. Ceux qui sont au stand de marché, si je sais aller les voir, un vendredi que j'ai du temps, j'y vais. Bonjour, vous allez bien ici? C'est pas un travail facile. Ils se réveillent très tôt matin et ils doivent parfois, en hiver, moi j'ai les plaints surtout, parce qu'il fait froid. Et en plus, ils sont dans les couloirs où parfois il y a du vent, alors ils doivent aussi surveiller le chapiteau parce qu'ils peuvent partir. Mais si j'ai le temps, je peux passer leur dire bonjour. Bon, je sais bien que les hommes ne sont pas autorisés dans la réunion des dames. Dommage, parce que on aurait pu aller aussi leur dire bonjour. Hein. Mais non, autorisés, donc c'est quand même méchant ce que je dis. On peut y aller aussi. Mais encourageons-nous dans les différentes tâches qu'on a à faire. C'est une manière de conserver l'unité que l'Esprit a créée. Nous nous blessons beaucoup entre nous et nous nous déchirons parfois pour des bêtises. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas d'abord nos frères et sœurs que nous blessons. C'est d'abord Christ, le patron. C'est de son corps qu'il s'agit. Vous, votre corps, si on vous pince, vous allez faire aïe. Le corps est de Christ. Donc quand vous le pincez, il fait aïe. C'est Christ qui fait aïe. Si nous avons la crainte de Dieu, et si nous savons que Dieu n'est pas simplement un Dieu de grâce et de bonté, c'est aussi un feu dévorant. C'est un Dieu de jugement. Il a peut-être laissé le temps de jugement derrière en disant je présente la grâce. Mais c'est un Dieu qui est juge et souverain. Il faut le respecter. Toute dernière chose, comme inconvénient du manque d'unité, et je pense que c'est la chose la plus dangereuse, c'est que lorsque l'Église commence à être divisée, qu'il n'y a plus d'unité dans l'Église, on donne un mauvais témoignage de l'Église. Vous savez, la personne qui est à l'extérieur de cette Église, qui va venir, qui va entendre des problèmes de division dans l'Église, il s'en fout de savoir si c'est X, Y qui a raison. Il sortira d'ici en disant, cette église-là, elle est pourrie, elle est mauvaise, ils ne s'entendent même pas. Pour lui, c'est l'église, ce n'est pas Gaston, ce n'est pas, je sais pas moi, Patricia, non, c'est l'église. Non, c'est pas toi, Patricia, je pensais même pas à toi d'ailleurs. J'ai donné un nom comme ça, moi. Le mauvais témoignage. Et ce mauvais témoignage affaiblit l'Église, affaiblit le travail de l'Église. Voyez-vous? C'est pas étonnant que les gens ne veulent plus venir dans les Églises. Vous savez, il y a une différence entre les anticléricaux et les agnostiques. Et vous allez voir que beaucoup de gens qui n'aiment pas la religion, ils la condamnent d'abord par rapport à sa structure, à son fonctionnement. Avant de parler de Dieu, vous savez, nous devons demander pardon à Dieu parce que la plupart des condamnations qu'on lance à Dieu, c'est à cause de nous, à cause de l'image que nous avons donnée de Dieu. Et nous empêchons ainsi le témoignage de l'Église. L'Église devient impuissante pour parler de Dieu, impuissante pour proclamer l'Évangile. Nous devenons donc, en agissant de la sorte, les fossoyeurs de l'œuvre de Dieu. Nous ralentissons l'avancement du royaume de Dieu. Nous l'arrêtons. Et il ne faut pas oublier, on a des comptes à rendre à Dieu. Alors, comment maintenir l'unité? Alors, je vais... Vous connaissez le secret. Notre bonne volonté d'abord. Refuser les jugements. Refuser les a priori. Refuser les préjugés. Refuser la distance. Ce texte de Éphésiens, au chapitre 4, là, que nous avons vu, dit « Vous efforçant de conserver l'unité par le lien de la paix. » Par le lien de la paix. La recherche de la paix n'est pas une tâche facile. J'aimerais simplement donner l'exemple à travers les ambassadeurs, les gens qui ont la mission de paix. Imaginez, il y a la guerre en Syrie, et que on envoie des ambassadeurs, des diplomates, pour pouvoir aller chercher les solutions de paix. Leur boulot est de réussir quelque chose d'impossible, enfin, de presque impossible. C'est celui de permettre que on évite la guerre, qu'il n'y ait pas de guerre, mais qu'une solution pacifique soit trouvée. Que doit faire un ambassadeur? Que doit faire un diplomate pour réussir sa mission de paix? D'abord, il faut qu'il soit quelqu'un qui soit capable de modérer son langage. Un diplomate ne veut pas dire « Ouais, je viens de là-bas, il y a des charniers, c'est pas possible, ce type est un criminel !» Si on commence comme ça, les autres vont dire « Ah oui, oui, justement, c'est un criminel, on prend les armes, on va l'attaquer !» Il doit modérer son langage. Il doit avoir un langage prudent, conciliant. Il doit avoir un cœur plein d'espoir. Un espoir qu'il y aura toujours la paix. La paix est toujours possible, malgré les conflits. Il doit toujours avoir un cœur plein d'espoir. Il ne doit pas cesser le dialogue. Il doit continuer à dialoguer. Il doit continuer à parler, même s'il y a des tensions. Il doit rechercher à éviter tout ce qui entraîne la guerre. Ça, c'est le boulot du diplomate. C'est un boulot pas facile, parce que ça lui demande, ça lui coûte à lui, au diplomate. Parce que il y a des choses qu'il va devoir passer sous silence, qu'il doit accepter de supporter, pas parce qu'il est bête, mais parce que il veut faire avancer la paix. L'unité est à ce prix-là, mes frères. L'unité est à ce prix-là. L'unité, c'est quand est possible si chacun de nous s'engage à faire en sorte que nous puissions veiller à ce qu'il n'y ait pas de dispute entre nous, qu'il n'y ait pas de conflit qui s'aggrave entre nous, qu'il n'y ait pas de jugement, qu'il n'y ait pas de médisance. C'est à nous tous de travailler à cela. L'unité, c'est quand je suis en mesure de défendre mon frère alors que l'autre le condamne. Il dit non, frère, tu es dur avec lui. Non, c'est pas comme ça. L'unité, c'est quand je suis en mesure d'apporter de moi aussi pour que les choses se passent bien dans l'Église. Nous, les chrétiens, on se blesse beaucoup avec les mots. Veillons sur nos mots. On se blesse beaucoup avec des actes, qu'on appelle ça, des choses qu'on fait, comment on dit ça, sans... Donc, on fait derrière le dos de l'autre. Nous sommes des diplomates, vous êtes d'accord? Nous sommes des diplomates du Seigneur. dans ce monde en feu. Vous êtes d'accord? Nous avons un boulot à faire. Mais le boulot que nous avons à faire, il ne peut être efficace que si d'abord nous tous, en tant que diplomates, on se tient par la main. Vous êtes d'accord? Vous imaginez le corps des diplomates qui part dans tous les sens avec chacun son opinion? Waouh! Ils vont être brillants dans l'échec. Mais s'ils sont ensemble, ils se tiennent par la main et qu'ils avancent vers le monde, ils vont apporter sûrement la solution. De toute façon, on n'a pas le choix. Parce que c'est par cette unité que le monde saura que Jésus est Seigneur et Sauveur. Par cette unité que le monde saura que nous sommes aussi des chrétiens. Juste un mot sur la diversité pendant 5 minutes. L'unité n'est pas uniforme. C'est une unité dans la diversité. On n'est pas tous des pieds, on n'est pas tous des mains, on n'est pas tous des yeux, on est différents. On est différents et non seulement on a un parcours personnel, on a une histoire personnelle, mais on a aussi des attentes et des désirs différents en fonction de ce que nous sommes chacun. Et bien sûr, construire l'unité dans la diversité, c'est quelque chose de très difficile. Mais pas si difficile que ça, puisque nous avons le même esprit. Que faire? Pour que nous puissions réussir dans notre diversité, il faut que nous apprenions à nous attacher au Saint-Esprit. Nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Porter le fruit de l'Esprit. La joie, l'amour, la paix, la maîtrise de soi, etc. Lorsque nous l'avons, je suis différent de l'autre, mais je peux vivre avec l'autre. Je peux accepter sa différence. Nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit, et nous avons été aussi abreuvés de cet esprit. C'est la même veine qui coule en nous, comme pour les humains, le même sang qui coule. Vous savez, la diversité fait partie du plan de Dieu. Les écolos ont inventé la biodiversité, mais Dieu ne les a pas attendus. Vous savez, regardez dans la nature, des fleurs de plusieurs formes, de plusieurs couleurs, des arbres de toutes les tailles, de toutes les formes, les humains de toutes les physionomies, de toutes les formes physiques. Dieu est quelque part un artiste de la diversité. Il aime la diversité. Alors aimons la diversité. Que nos différences ne soient pas l'occasion de nous séparer, mais soient l'occasion de nous enrichir. Pour ça, il faut que j'accepte la différence de l'autre. Il faut que j'accepte que je parte de l'idée que la différence de l'autre peut m'enrichir. C'est pas parce qu'il est différent qu'il n'est pas le fils ou la fille du même père que moi. J'ai le même père, malgré notre différence. Et quand je comprends ça, ma fraternité devient différente. Mon frère n'est plus simplement celui qui a la même peau que moi. Mon frère n'est plus seulement celui qui a la même culture que moi. Mon frère n'est pas seulement celui qui pense comme moi. Mon frère, c'est celui qui a Christ en lui, comme moi. Et quand je commence dans cette fraternité-là, j'ai un élan d'amour alors pour les autres, peu importe qui ils sont. Nos différences doivent être l'occasion de nous enrichir. Il faut commencer par refuser de se comparer. Le piège dans lequel on tombe, c'est que nous nous comparons toujours les uns les autres. Je suis meilleur que lui ou je suis plus nul que lui. Savoir accepter l'autre et l'accueillir dans la différence. L'aimer, non pas comme moi j'ai envie qu'il soit, mais l'aimer tel qu'il est. Quand je commence à marcher comme cela, je rentre dans une dimension de la diversité. Que le Seigneur nous aide. L'Église ne peut pas grandir autrement que dans l'unité. Je vais terminer avec ce texte, mais tu l'as dans le... Tu l'as aussi, Éphésiens chapitre 4, verset 16. Mais moi, je vais le lire dans cette version ici. Vous pouvez le lire, vous pouvez le suivre ici, mais écoutez quand même la version que je vais lire ici dans dans le texte de ces traductions vivantes, hein, paroles vivantes. C'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans sa dépendance, dans la dépendance de la tête, que l'ensemble bien lié et coordonné, grâce aux différents muscles et ligaments, forme une structure harmonieuse, à condition que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et les capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. De cette manière, tous les membres contribuent ensemble, dans un esprit d'amour, à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. Vous avez entendu ? Notre unité permet à l'ensemble du corps de se développer. Sous-entendu, nos divisions bloquent le développement, l'avancement de l'Église. C'est de Jésus-Christ que nous recevons tout ce qu'il nous faut pour œuvrer dans l'Église. Alors, que le Seigneur nous aide à comprendre ça et à le vivre. Il s'agit de prendre une décision et de dire, à partir de maintenant, je veux travailler pour l'unité. Je ne veux pas être de ceux qui aggravent les crises, les situations. Je ne veux pas être de ceux qui vont amener des problèmes. Je veux être de ceux qui vont aider à résoudre les problèmes. Et lorsqu'on a compris cela, alors nous allons faciliter le travail de l'Esprit à l'intérieur de l'Église et dans nos propres vies. Et nous verrons l'Église commencer à grandir. La prochaine fois, c'est une autre question que nous allons aborder. Nous allons aborder la question de comment permettre à l'Église d'atteindre sa finalité. Autrement dit, on va aborder toute la question du travail dans l'Église, qui sont les pasteurs, les anciens, comment on travaille dans l'Église. Quelle est la dynamique qui fait qu'on peut réussir l'Église? Bien sûr, il ne faudra pas qu'une seule prédication pour ça. Bon, nous allons nous arrêter là. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Je l'ai donnée avec ce que je sais faire, mais je prie surtout que par ta grâce et surtout par le Saint-Esprit, tu donnes à chacun sa part d'aujourd'hui pour que tous nous puissions contribuer à la même chose, à l'avancement de ton royaume dans cette Église. Bénis-nous, bénis chacun de nous, Seigneur, et œuvre en chacun de nous. Je sais que chacun est précieux à tes yeux. Tu comptes sur chacun. Alors aide chacun de nous à trouver grâce et sa place dans l'Église pour travailler pour toi et pour ta plus grande gloire. Fais-nous cette grâce au nom de Jésus. Amen.